Nous sommes en compagnie de Jean Chambaz, président de Sorbonne Université. Et si j'ai dit que le sujet de l'université française était aujourd'hui moins consensuel, c'est par exemple si l'on se réfère à une déclaration comme celle de Jean-Luc Mélenchon qui souhaite la mobilisation de la jeunesse. Écoutez-le, c'était le 17 décembre dernier au micro d'Europe 1.
Le 15 janvier, les jeunes gens dans les lycées vont apprendre à quelle sauce ils sont mangés à la fin de l'année. Et je pense qu'à partir de là, je l'espère, la jeunesse se mobilise pour défendre son droit à choisir sa vie. Parce
vous
que
lancez...
c'est ce dont on parle.
Jean-Luc...
Choisir ses études, c'est choisir sa vie. Jean-Luc... Quand vous entrez à l'université, vous avez un bac. Ça donne des droits. Et vous choisissez votre vie. Ah bah tiens, je veux être médecin, ou je veux être ingénieur, ou je veux être prof d'histoire. Vous choisissez votre vie.
Jean Chambaz, a-t-on aujourd'hui affaire à une mobilisation de la jeunesse? Est-ce que c'est ce à quoi vous assistez à la Sorbonne ou ailleurs?
Moi, je discute avec les représentants des étudiants dans mes conseils. Nous allons discuter la semaine prochaine de ce qu'on appelle les attendus, donc ce qui est attendu des étudiants pour rentrer en licence de notre université, de nos capacités d'accueil. Et c'est dans un dialogue responsable qui, là encore, vise la réussite étudiante. C'est facile d'avoir des propos incantatoires. Mais Jean-Luc Mélenchon doit se rappeler, puisqu'il a été ministre de l'enseignement technologique, combien... une mauvaise orientation des étudiants, une mauvaise information des étudiants l'amène à l'échec. C'est facile de faire des effets de manche. Mais concrètement, la responsabilité des présidents d'université, des présidents de l'ensemble du dispositif d'enseignement supérieur, c'est d'essayer de mieux apporter une réponse aux étudiants, aux élèves, aux bacheliers, pour que oui, ils puissent poursuivre des études supérieures, mais en les réussissant. C'est-à-dire en sachant ce qu'on attend d'eux, l'exigence qu'on a d'eux pour qu'ils réussissent. C'est pas une peau d'âne qu'on a en passant 3 ans ou 4 ans à l'université. Il faut y travailler dur et il faut donc être en capacité d'y travailler. Et donc c'est ces dispositifs-là que nous mettons en place.
Mais derrière le discours de Jean-Luc Mélenchon, on a également d'autres exemples en tête, des déclarations notamment de syndicats étudiants. On se dit finalement qu'aujourd'hui, le droit de choisir un métier doit venir en priorité, qu'il y a en quelque sorte une règle qui veut qu'en France, on choisisse sa formation. Et c'est cette règle, finalement, que cette réforme est en train de faire voler en éclats.
Absolument pas.
Et petit peu quand même.
Absolument pas. La ministre, je crois que le président de la République aussi, ont rappelé que le dernier mot restait au bachelier. En même temps... faire un choix. C'est quand même frappant de voir que les filières les plus en tension à l'université sont donc le sport, la psychologie, le droit, la médecine, qui ne sont pas enseignées au lycée. Alors ça ne veut pas dire qu'ils essayent de fuir les disciplines enseignées très bien par nos collègues professeurs du secondaire, mais c'est que ils se jettent dans l'inconnu sans vraiment savoir, parce qu'ils ont une image un peu idéale, romantique, imprécise des voies qui leur sont offertes. Donc c'est vraiment en travaillant dans les années qui viennent sur l'information et dans un dialogue étroit entre professeurs du secondaire et université, en travaillant sur l'information des étudiants, leur faire comprendre la diversité des métiers, qu'ils peuvent trouver, la diversité des filières, il y a du tirage au sort. Dans APB, on voyait bien combien c'était compliqué pour les élèves et pour leurs familles. Les parents jouent un rôle extrêmement important de savoir comment combiner les filières. Donc, c'est de l'information dont ils ont besoin pour comprendre les critères de réussite.
Autre crainte, avec notamment l'autonomie des universités qui, elle, se poursuit, Jean Chambaz, l'idée selon laquelle, finalement, les universités vont aujourd'hui pouvoir attirer certains étudiants, donc une concurrence avec un système qui va devenir un système à 2-3 vitesses. Alors, Sorbonne Université n'est pas désavantagée dans cet univers-là, mais d'autres pourraient l'être.
Nous avons tous une mission de service public, et pour ce qui est de Sorbonne Université, nous avons fait le choix, tout en fusionnant deux universités prestigieuses, de prendre le statut ordinaire des universités publiques de service public en France. On n'a pas cherché de martingale de gouvernance compliquée, sophistiquée. Nous sommes une université de service public. Nous assurons le service public, mais assurer le service public, c'est donner le meilleur de nos compétences à la nation. Et nous avons capacité de recherche qui nous permet de former de manière spécifique un certain nombre de jeunes extrêmement talentueux pour qu'ils réussissent, quelle que soit leur origine. Notre bassin de recrutement n'est pas le 5e arrondissement de Paris. 30% de nos étudiants en licence viennent de Paris, 30% de la région parisienne, 20% du reste
mais
de la France.
Mais vous attirez les meilleurs.
Ben, nous sommes une université qui forme au meilleur niveau. Faut pas reprocher aux élèves. Si on veut, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, laisser aux bacheliers le droit de choisir leurs études, laissons-leur aussi le droit de choisir l'université où ils veulent étudier. C'est la réalité.
Vous êtes aujourd'hui président de Sorbonne Université, vous avez été professeur de biologie cellulaire, vous venez donc des sciences dites dures.
Non, molle. La biologie, c'est mou, c'est inhumain, asocial, mou, impur. On est ni humain ni
pourquoi
dur.
Pas humain
ça c'est c'est la biologie. Mais c'est vivant,
bon,
ça bouge.
C'est votre représentation. Écoutez, moi j'étais habitué à la distinction entre sciences dures, dites sciences scientifiques avec des méthodes de validation, et puis les sciences humaines, qui elles peuvent être plus molles. Mais en tout cas, on dit qu'en France, on a du mal à attirer dans ces filières. Qui sont ces filières scientifiques, des maths à la physique. Est-ce ce que vous constatez aujourd'hui, Jean Chambaz ?
Alors, globalement, au niveau du pays, oui, on n'a pas assez d'élèves, de jeunes qui s'orientent vers les disciplines scientifiques, notamment de femmes. Et donc, nous avons développé à Sorbonne Université un programme qui s'appelle Pluriel pour vraiment créer les conditions d'attirer, de donner l'envie à plus de jeunes bachelières de venir dans les filières scientifiques. À l'université, c'est pas le cas. Nous avons pour 1000 places en première année de licence. L'an dernier, nous avions 30 000 candidatures. Donc, évidemment, globalement, on n'attire pas assez dans le pays. Nous, on a plus de candidats qu'on est capable de les accueillir.
Comment vous expliquez cela ?
C'est d'abord que ce sont des études qui apparaissent plus exigeantes que les autres, et là encore c'est une erreur. Réussir des études de littérature, des études d'histoire, des études de philosophie, de sociologie au meilleur niveau pour jouer un rôle important dans la société et développer une carrière intéressante, c'est aussi exigeant que les disciplines scientifiques, mais c'est pas la même image qu'on a dans la collectivité. On manque de culture scientifique. La culture scientifique ne fait pas partie de la culture générale. Si vous regardez le monde, vous avez les pages sciences et médecine et les pages culture et idées. Mais les sciences ne font pas partie de la culture. Donc on a un énorme travail collectif pour réintégrer les sciences dans la culture, et c'est en ça où je suis très reconnaissant à France Culture d'avoir cette action, et notamment cette journée demain avec nous à la Sorbonne.
Ah oui, avec le forum animal, dont nous reparlerons avec donc de 10h à 18h un certain nombre d'intervenants et une possibilité de s'inscrire sur le site de France Culture, franceculture.fr. Le sondage qui a été publié le 7 janvier dernier est un sondage qui mesurait un certain nombre de propensions à croire dans des complots, dans ce qu'on appelle des fake news. Alors en fait, un ensemble de croyances assez hétérogènes, mais parmi les différentes croyances qui ont été mesurées, il y a celle de 18% des 18-24 ans qui se disent favorables. Je ne sais pas très bien ce que c'est se dire favorable dans ce contexte-là, mais en tout cas à l'idée que la Terre est plate, alors que on sait depuis quelque temps qu'elle ne l'est pas plate. Cela a été démontré. Vous qui êtes scientifique, qu'en pensez-vous ?
C'est évidemment préoccupant. C'est moins préoccupant qu'en France, qu'aux États-Unis, où là, notamment parce qu'il y a certains établissements qui enseignent le créationnisme, officiellement, il y a des États qui décident que le créationnisme est une données scientifiques au même titre que les données réelles de la science. Sans doute qu'il n'y a pas assez de jeux vidéo qui montrent la Terre, que la Terre est ronde.
La rotondité de la Terre.
Voilà. Mais non, plus sérieusement...
En dehors des jeux vidéo, on a...
Non, plus sérieusement, c'est évidemment une préoccupation pour l'ensemble de la société. Je crois qu'on est entré dans une ère, et ça interpelle les universités, ça nous appelle à nous renouveler pour jouer notre rôle millénaire, mais dans un contexte d'aujourd'hui et de demain, on est envahi de données. On a une augmentation exponentielle des données et on a une augmentation exponentielle des sites d'information et de la diffusion virale de l'information sur les réseaux sociaux. Et ça diffuse des données réelles, vérifiées, comme des fake news. Quand on voit que, sur la question du dérèglement climatique, le président d'un des principaux pays du monde...
Je vois de qui vous voulez
tweet
parler.
Il aime beaucoup tweeter. En confondant climat et météo, c'est absolument catastrophique. Donc il y a un effort considérable à faire, et comment on peut le faire ?
Mais y a-t-il un effort à faire uniquement ou bien assiste-t-on également à une crise de la pensée scientifique et, puisque ça, ce n'est pas nouveau, mais il y a aussi des scientifiques qui propagent des théories alternatives. On voit aujourd'hui que, par exemple, la médecine traditionnelle et des médecines alternatives sont parfois mises sur le même plan, qu'il y a de moins en moins de confiance en la science. Ça, ça vous concerne directement en tant que président d'université, en tant que scientifique, vous en pensez quoi ?
Alors, évidemment, il y a une remise en question des sciences par rapport aux 30 Glorieuses. Il est clair qu'aujourd'hui, moi j'ai été attiré dans les études scientifiques dans les années 60, dans ce mouvement de confiance en la science et que la science amenait le progrès à la société. Aujourd'hui, on rend souvent la science responsable de ses applications, par d'autres décisions. Et sans doute que la communauté scientifique a pas été assez vigilante et se préoccupant de maîtriser le développement des sciences, de donner du sens, d'approfondir, n'est pas assez intervenu dans le débat public. Et à l'inverse, on n'a pas assez sollicité, je parle pas de cette chaîne, on n'a pas assez sollicité les scientifiques pour contribuer au débat public. Non pas pour créer une république des experts, c'est sûrement pas le sens. La démocratie, c'est le peuple. Mais pour donner des clés de compréhension. Et c'est bien ça le sens de la rénovation pédagogique que nous mettons en œuvre. J'hébergeais à Sorbonne Université en septembre un forum européen sur la transformation de l'enseignement. Et justement avec cette question, comment équiper d'un esprit critique les gens, les jeunes, mais l'ensemble de la population, pour trier parmi ces multiples données qu'ils reçoivent, être en capacité d'évaluer leur crédibilité, leur véracité, de les hiérarchiser, donc de donner du sens. Et ça, j'étais frappé d'entendre la nouvelle tout à l'heure sur le fait que Gallimard, très raisonnablement, a renoncé à publier ce texte de Céline, et pourtant on ne peut pas effacer l'histoire, et pourtant un appareil critique extrêmement organisé arriverait à démonter la logique antisémite des propos de Céline et contribuerait au débat d'aujourd'hui. On n'est pas en capacité de le faire, c'est dommage, mais c'est un terrain sur lequel il faut qu'on récupère. On a besoin de donner du sens, au monde, à notre histoire, aux enjeux pour les éclairer.
Mais imaginez par exemple qu'à l'heure où la verticalité n'est plus tellement à la mode, c'est-à-dire que les idées assénées, que ce soit des opinions ou des choses démontrées, ont de plus en plus de mal à se frayer un chemin. Imaginez par exemple que la pensée scientifique soit aujourd'hui finalement rejetée par une part de la population, puisque c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, avec le créationnisme, avec des idées dont on en a parlé, comme par exemple la Terre n'était pas ronde. Est-ce que finalement, on n'a pas tourné une page par rapport à ce qui était l'espérance dans la science au début du XXe siècle ?
Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'on a... Je ne crois pas qu'il y avait une meilleure confiance à la science ou une meilleure compréhension des enjeux globalement, mais c'était moins posé sur la place publique, c'était plus dans des cercles spécialisés et il n'y avait pas cette diffusion immédiate à l'ensemble de la planète de tout ce qui arrive d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que c'est bien l'enjeu pour nous, il n'y a pas d'autre solution de développer l'esprit critique des étudiants et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, d'apprendre à apprendre. Mais c'est extrêmement sérieux. Aujourd'hui, les données, ils y ont accès. Vous savez que assez régulièrement dans les cours, dans les enseignements que nous prodiguons, les professeurs sont très surpris de se voir interpellés par des étudiants qui disent « Non, ce que vous dites là n'est pas vrai. Je viens de regarder, ils sont sur leur tablette ou sur leur smartphone. Je viens de regarder sur Wikipédia, c'est pas la même chose. » Et pourtant, Wikipédia est plutôt sérieux dans le domaine. Donc, il faut... Le rôle principal, puisqu'on peut accéder aux informations si facilement aujourd'hui, c'est pas simplement de transmettre les connaissances, mais de transmettre la manière d'appréhender, de critiquer, d'analyser les connaissances. Et c'est là où l'université amène une formation unique qui est de développer cet esprit critique. Et comme l'ambition de la nation est d'amener 50% d'une classe d'âge à un diplôme de licence, c'est par cette voie-là qu'on luttera contre les fake news.
Alors vous avez parlé d'apprendre à apprendre, et c'est effectivement une noble ambition. Et il y a ce mois-ci une étude qui vient de paraître dans The Atlantic, qui est un magazine, disons, de la gauche américaine, sur ce que savent véritablement les étudiants dans les universités américaines. Et cet article est extrêmement pessimiste, puisqu'il dit finalement aujourd'hui, les étudiants américains dépensent énormément dans leur éducation. Il y a un recrutement de très haut niveau qui est fait dans les entreprises. Et cependant, ces étudiants oublient quasiment immédiatement ce qu'ils ont appris à l'université. On a posé des questions de logique, des questions assez simples ou des questions en lien avec le réel, par exemple, à des étudiants en économie pour se rendre compte que finalement, ils avaient beaucoup de mal à mettre en lien les connaissances théoriques qu'ils étaient censés avoir appris à l'université et la manière dont ils envisageaient le réel. Est-ce que finalement, on n'en fait pas trop à l'université en lien avec la compréhension du réel ?
Sûrement pas. Je crois que c'est bien d'avoir des polémiques, c'est bien d'être remis en cause et on doit s'interroger nous-mêmes. Enfin, si on veut développer l'esprit critique de nos étudiants, faut aussi qu'on le développe et qu'on l'applique à nous-mêmes. On a la chance en France d'avoir un système d'enseignement public, primaire, secondaire, supérieur, de très grande qualité. Je ne commenterai pas la diversité des situations aux États-Unis. Il y a évidemment de très bonnes formations. Je crois que ce dont on a besoin tout au long de sa carrière, le monde change extrêmement rapidement. Les questions se posent de manière différente. Un certain nombre des connaissances qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on apprend aujourd'hui seront caduques ou seront enrichies, transformées dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ces jeunes qui ont une carrière de 30 à 40 ans devant eux doivent avoir la capacité de rebondir. Donc ces deux éléments, c'est d'une part concevoir notre activité de formation, là encore adossée à la recherche, comme une formation tout au long de la vie, ne pas dire qu'il y a un bloc initial et puis ensuite démerde-toi, mais qu'il y a des temps dans la vie des citoyens où ils ont une formation initiale, ils ont une activité professionnelle, ils reviennent en reprise d'études, ils reprennent un complément, etc. Mais le plus important aujourd'hui, puisqu'il est si facile d'accéder aux informations sur des sites tout à fait de grande qualité ou sur des sites sans aucune rigueur, c'est vraiment développer cette... La clé de ce que nous devons faire, c'est les équiper d'un esprit critique constructif, c'est-à-dire que leur donner les moyens d'appréhender et de continuer à apprendre sur la base d'un socle solide, de continuer à apprendre. Et je crois que, pour en discuter avec beaucoup de responsables d'entreprises, alors que ce soit les grandes entreprises, que ce soit des PME, et notamment des DRH de ces établissements, ils apprécient cette formation de type universitaire.
Alors, pas toutes les formations de type universitaire, et c'est là où je vais prendre la défense des sciences molles, de ce que j'appelle les sciences molles, autrement dit les sciences humaines. On voit par exemple qu'aux États-Unis, il est tout à fait possible d'être historien et de travailler dans une banque, par exemple, alors qu'en France, c'est quasiment mission impossible. Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, une résistance des entreprises contre laquelle vous ne pouvez rien, Jean Chambaz, même si vous êtes président de Sorbonne Université, une résistance des entreprises qui fait finalement qu'on a une telle magie du diplôme en France que les entreprises ne s'écartent pas d'un certain nombre de rails et qui font que des filières où on apprend à apprendre comme dans les autres filières sont aujourd'hui délaissées par les entreprises.
Vous avez tout à fait raison, mais la situation n'est pas aussi caricaturale. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à diversifier, qui ont cette prise de conscience. Ceci dit, c'est vrai qu'en France, on a une sublimation du diplôme initial qui montre que des personnes qui ont eu des carrières absolument extraordinaires, quand elles décèdent et qu'on annonce leur décès dans le journal, on donne l'année de sortie de l'école d'ingénieur ou de l'école de commerce dont ils ont été diplômés à 20 ans ou 22 ans, alors que leur vie était beaucoup plus riche que ça. Donc il y a un rapport à la formation qui doit être beaucoup plus global. Mais par exemple, j'étais dans une cérémonie de remise de bourses pour des jeunes pour qu'ils puissent faire un master d'emblée, s'engager, des jeunes très brillants qui puissent faire un master d'emblée, s'engager dans un mystère avec Jean-Luc Bérard, le DRH de Safran, équipementier aéronautique, eh bien, il est de formation littéraire. Donc, alors ils ne sont pas nombreux pour l'instant encore à Safran avec ce profil, mais ça montre que oui, là encore, si la formation, quelle que soit la discipline, c'est de développer l'esprit critique, c'est d'être en capacité de se poser des questions, de développer sa créativité, de savoir rebondir devant l'échec. Si on prend la recherche, une activité de recherche est 90% d'échecs, 5-10% de succès, mais on rebondit, on reformule la question. Tout ça, c'est des compétences, quel que soit le secteur disciplinaire dans lesquels on les développe par la pratique de la recherche, qui sont transférables dans toute activité professionnelle. Et c'est en ça où le doctorat et le master, mais encore plus le doctorat, est une formation essentielle dont les entreprises ont grand intérêt à s'enrichir. Alors, il y a une diversité de formations. Les filières de formation d'ingénieurs sont tout aussi intéressantes et nécessaires, mais c'est dans la mixité des profils que les entreprises s'enrichiront.
Et aujourd'hui, puisque vous parliez de cette activité de recherche, quelles sont les pistes qui vous paraissent les plus prometteuses au sein de Sorbonne Université? Quels sont les différents laboratoires dont vous disposez?
On n'a plus le temps. Une 130 laboratoires ou 130 unités de recherche à Sorbonne Université, pour l'essentiel en partenariat avec le CNRS ou l'INSERM dans le domaine médical. On couvre les grands domaines de la connaissance de nos disciplines, mais en même temps, on a su marier ces disciplines dans un effort récent sur des sujets transversaux, où l'approche pluridisciplinaire est nécessaire. On a, ces deux dernières années, créé des opérations scientifiques qu'on appelle instituts, précisément sur la transition environnementale, non plus pour parler du dérèglement climatique, mais pour aller chercher des solutions concrètes pour y remédier. L'ingénierie pour la santé, pour travailler avec des philosophes, des comportementalistes, des ingénieurs et des médecins à comment maintenir les gens à domicile de façon autonome, ce qui réglerait des problèmes de sécurité sociale. Évidemment, les sciences de données et de la data associées aux humanités, à la médecine, et j'en passe beaucoup.
Jean Chambaz, président de Sorbonne Université,